Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Pour qui voter dimanche? À 3 jours du premier tour, certains hésitent encore. Alors les candidats mettent à profit les dernières heures de campagne. Nantes, Perpignan, Rouen, Paris, Lille. L'hexagone bien quadrillé aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi la Russie, suspendue du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. La chef de la diplomatie américaine accuse Moscou de continuer à commettre des atrocités en ce moment même. L'Ukraine réclame des armes, des armes, des armes, on l'entendra. Et nous serons à Bruxelles où les Européens tardent à se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions. La famille et les soutiens d'Olivier Dubois se mobilisent. Cela fera un an demain que le journaliste a été enlevé au Mali. La deuxième dose de rappel ouverte aux plus de 60 ans, alors que les contaminations n'augmentent plus, est-ce vraiment utile? Et puis Maxime Grousset, nouveau champion de France du 100 mètres, grand espoir de la génération tricolore. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien on va essayer de jouer ensemble ce soir. Je vous fais confiance. À 3 jours de vote, je voudrais qu'on se parle de la campagne électorale à la machine à café. La campagne en famille, bref, entre vous, est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on s'engueule? Est-ce qu'on a zappé le sujet? Parce que décidément, cette campagne est sans sujet fort, ni débat qui surpasse les autres. À quoi ressemblent vos échanges sur ce premier tour? Y a-t-il une conversation nationale que vous refaites en famille ou au bureau? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est le moment pour les 12 candidats à la présidentielle de jeter leur dernière force dans la bataille. Parce que le premier tour est dans 3 jours, que l'abstention s'annonce forte et qu'il y a encore beaucoup d'électeurs indécis. Il n'y a qu'à tendre le micro pour comprendre à quel point Sarah Saltierago a sorti le sien à Verzon, près de Caen, qui vote d'habitude massivement. Cette fois, c'est un peu différent.
Quel nom glisser dans l'enveloppe dimanche? Laurence ne sait toujours pas.
Complètement dans l'indécision, surtout qu'on a toujours pas reçu les programmes que j'aime bien lire à l'avance, et là, ça va être encore compliqué. Je trouve que le débat, il est très très bas et on n'a rien en profondeur.
Donc vous allez vous décider dans l'isoloir dimanche?
Voilà.
Un choix de dernière minute, c'est aussi ce qui risque de se passer pour Myriam, qui ne se reconnaît dans aucun programme.
Oui, je vais aller voter, mais je ne sais pas encore pour qui. On n'écoute pas les gens qui travaillent, on l'augmentation de tout, les gens ont de plus en plus de mal à vivre. Donc moi, je trouve que personne n'est là pour nous soutenir.
D'autres n'ont plus confiance en la politique. C'est le cas de Patrick. Il n'est même pas sûr d'aller voter dimanche.
Je ne sais pas encore. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parce qu'on a de plus en plus affaire à des affairistes plutôt qu'à des politiques qui s'occupent de nous. La politique, ça ne ressemble plus à rien. Enfin, moi, je suis hyper déçu.
Difficile surtout de se décider pour Michel quand il n'y a pas de débat entre les candidats avant le premier tour.
Il n'y a pas de débat. Chacun s'autocongratule. Et voilà, quoi. Alors, c'est facile, hein. On ne se fait que des compliments. Si devant vous, il n'y a pas d'interlocuteur pour... Je suis désolé, c'est pas une campagne.
Dans ces conditions, l'abstention pourrait battre des records. Le dernier sondage Ipsos estime qu'un électeur sur 3 pourrait bouder les urnes.
Et reportage France Bleu Normandie qui dit bien les hésitations du moment. Alors les candidats se démultiplient aujourd'hui. Marine Le Pen est à Perpignan, Valérie Pécresse dans le Rhône, Anne Hidalgo à Rouen, Éric Zemmour au Palais des Sports de Paris ce soir, tandis que Yannick Jadot avait choisi la Loire-Atlantique près de Saint-Nazaire, un site menacé par la montée des eaux. Antoine Gignot l'a suivi.
Voilà, c'est le bâtiment abandonné.
Un bâtiment inondé pendant la tempête Xynthia est désormais inutilisable. Dans les 3 ans qui viennent, l'ensemble du centre médico-social de Saint-Brévin-les-Pins doit déménager face à la mer, face aux futures crises climatiques. Yannick Jadot met en avant l'expertise des écologistes.
Vous voyez, la force des écologistes, c'est d'anticiper. Ça fait longtemps qu'on a alerté sur ce qu'allait se passer. Quand vous regardez le dernier rapport du GIEC, ce sont énormément de communes qui vont être impactés par l'élévation du niveau de la mer. Et aujourd'hui, on a les politiques publiques, il faut anticiper pour éviter les crises.
Mais si le candidat d'Europe Écologie Les Verts recentre son discours sur le climat, il n'oublie pas de parler de préoccupations économiques, en tête dans les dernières études des sujets qui inquiètent les moins de 30 ans.
Si on avait développé les transports en commun, le covoiturage, favorisé une agriculture, une alimentation bio, ben au fond, les Françaises et les Français auraient beaucoup moins de problèmes de pouvoir d'achat, au-delà du fait qu'on contribuerait davantage à résoudre ce problème du climat. Et sur ce que ça signifie en matière de réparation des services publics, de reconstruction de notre économie, eh bien, ce sont les écologistes qui sont les plus crédibles.
Une manière pour Yannick Jadot de ramener l'élection à un choix binaire. Selon les experts, il reste, dit-il, 3 ans pour agir. Dimanche, il s'agit de savoir si vous voulez que l'écologie soit ou ne soit pas au cœur du prochain quinquennat.
Reportage Antoine Gignot et je me tourne vers vous. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Parce qu'il y a un candidat qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron.
Et oui, en tout et pour tout, 5 déplacements de campagne. Aujourd'hui, son équipe avait prévu une sortie. Mais puisque nous, médias audiovisuels, n'avons plus de temps d'antenne, de temps de parole à lui accorder, le déplacement a été annulé. On va se rattraper dans l'entre-deux-tours, espère-t-on au QG, où l'on insiste aujourd'hui sur une mesure promise hier par le candidat, l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation dès cet été, au lieu d'attendre le 1er janvier prochain. Mesure d'urgence et de justice, selon Bruno Le Maire.
Le candidat Macron vient aussi de répondre à nos 100 questions pour la jeunesse.
Vous pouvez aller sur franceinter.fr ce soir, retrouver tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il propose pour les jeunes d'aujourd'hui. Avant lui, la plupart des candidats se sont prêtés à l'exercice. Nathalie Arthaud, par exemple, se dit pour le permis de conduire et le droit de vote à 16 ans, pour la dépénalisation du cannabis, pour l'enseignement d'une langue étrangère dès l'école primaire, pour l'écriture inclusive ou encore pour le retour des mathématiques dans le tronc commun jusqu'au bac.
La candidate de Lutte ouvrière veut davantage d'enseignants.
Elle encourage le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire. Pour elle, chaque lycéen doit être doté d'une tablette numérique. Quant au plus grand ministre de l'éducation à ses yeux, c'est sans surprise Karl Marx qui m'a, je cite, tout appris sur le fonctionnement de l'histoire de la lutte des classes.
On était il y a un instant à Nantes, un dernier meeting de Yannick Jadot. On se dirige maintenant vers Perpignan.
Où Marine Le Pen va s'exprimer dans quelques minutes depuis le parc des expositions. Pour l'instant, c'est son ancien compagnon et maire de la ville qui chauffe la salle, Louis Alliot, au pupitre sur lequel il est écrit « Si le peuple vote, le peuple gagne ».
Notre victoire, hein, n'en doutez pas, passe par vous, par votre mobilisation, par votre détermination, par votre présence résolue dans le débat politique, chaque fois que c'est possible, avec vos collègues, vos voisins, vos proches, dans vos entreprises, dans vos quartiers, dans vos familles, partout où vous le pourrez, portez le même message. La France est en train de se relever.
Le maire de Perpignan avec Élodie Forêt devant quelques 3000 personnes ce soir selon le RN qui croit à sa victoire alors qu'au PS on prépare la défaite.
Ça en a tout l'air en tout cas. Dîner hier soir à la questure du Sénat avec François Hollande et Carole Delga et sans Olivier Faure. La maire de Paris semble se projeter dans l'après sans le patron du PS qu'elle promet pourtant de rencontrer demain. Ils ne se sont quasiment pas vus de la campagne. Chacun a l'air d'avoir son point de vue pour relancer la gauche au soir du 10 avril.
Écho de campagne signé Maxence Lambrecq et vous le disiez Maxence, je le rappelle, les propositions des candidats pour la jeunesse sont à lire sur franceinter.fr. À droite comme à gauche, les programmes rivalisent aussi de mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et sur la question de la fin de vie, relancer le débat, changer la loi, que proposent les syndicats? Victor Delande a tout épluché. Bonsoir Victor.
Bonsoir.
Et contrairement à beaucoup d'autres sujets de société, la question de la fin de vie s'inscrit là dans un clivage politique assez traditionnel.
Oui, les 6 candidats de gauche se prononcent pour une nouvelle loi instaurant le suicide assisté quand la droite penche davantage pour une meilleure application des textes déjà existants. D'abord à gauche, Jean-Luc Mélenchon veut inscrire dans la Constitution le droit de mourir dans la dignité. Le candidat de la France Insoumise est favorable au suicide assisté. C'est le patient associé au processus de décision qui s'injecte lui-même le produit létal. Anne Hidalgo assure que ce sera la grande loi de son quinquennat. Si elle est élue, elle promet une nouvelle législation en la matière dès les premiers mois de son mandat. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Yannick Jadot veulent aussi légaliser l'euthanasie. À la différence du suicide assisté, c'est le corps médical qui prend la décision et pratique l'injection létale.
À droite, en revanche, les candidats ne veulent pas de changement majeur sur la fin de vie.
Non, ils ne veulent pas aller plus loin que l'actuelle loi Claeys-Leonetti, un texte qui encadre la sédation profonde et continue pour les malades en phase terminale. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour plaident pour un meilleur accès aux soins palliatifs dans toute la France. De son côté, Emmanuel Macron ne se prononce pas encore sur le sujet. Il préconise l'organisation d'une convention citoyenne. Et ce n'est qu'à partir de ces conclusions que le président candidat proposera une nouvelle loi au Parlement. Enfin, Jean Lassalle, lui, plaide pour un grand débat sur la fin de vie avant de demander leur avis aux Français par référendum.
Victor Delande pour le panorama des propositions des candidats. Premier tour de la présidentielle, c'est dans 3 jours. On en reparle juste après ce journal avec vous, Fabienne.
À 19h09, Hélène, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera à Kiev demain.
Pour y exprimer le soutien total des Européens. Le peuple ukrainien mérite notre solidarité. C'est pour cette raison que je me rendrai à Kiev demain. Je veux envoyer un message de soutien indéfectible au peuple ukrainien.
et à son combat courageux pour nos valeurs communes.
Ursula von der Leyen qui sera donc dans la capitale ukrainienne demain, alors que le chef de la diplomatie ukrainienne est allé à Bruxelles aujourd'hui rencontrer ses homologues de l'OTAN pour leur demander trois choses.
Weapons.
Des armes. Maintenant, dit-il, où il sera trop tard. Les trois prochaines semaines seront critiques. L'armée ukrainienne arrivera-t-elle à repousser les assauts russes dans le sud-est? Mariupol n'est pas tombée. Les séparatistes pro-russes l'ont admis cet après-midi, mais la région du Donbass se prépare à de violents combats, alors que l'Union européenne, elle, travaille encore à un nouveau train de sanctions. Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir.
Vous êtes à Bruxelles, les États membres, que le Parlement pousse à agir. En tout cas, les eurodéputés ont massivement voté en faveur d'un embargo immédiat sur les hydrocarbures aujourd'hui, y compris le gaz.
Oui, effectivement, le Parlement vote un embargo sur tous les hydrocarbures sans distinction. Et avec le vote de cette résolution, qui, on le rappelle, n'est pas un texte contraignant, les eurodéputés, depuis Strasbourg, envoient un message très clair aux États membres réunis à Bruxelles et qui, eux, sont les décideurs. Il faut aller plus loin qu'un simple embargo si l'on veut réellement gripper le financement de la machine de guerre russe alimentée par la manne financière des exportations énergétiques. Et effectivement, ce problème énergétique, il est au cœur des discussions qui animent les 27 depuis le début de la semaine. Les capitales sont divisés sur la question. S'il semble y avoir un consensus pour un embargo sur le charbon, on en est beaucoup plus loin sur le pétrole. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, l'a dit ce matin. Le pétrole n'est pas dans le cinquième paquet de sanctions, mais il y aura une décision tôt ou tard. Même l'Allemagne, qui était réticente sur le sujet il y a encore quelques jours, a semble-t-il fait évoluer sa position. En revanche, sur le gaz, c'est toujours non. L'Allemagne, l'Autriche et l'Hongrie, par exemple, se disent trop dépendants du gaz russe. Ils craignent pour leurs économies, leur industrie et leur population.
Est-ce que le vote du Parlement peut convaincre les 27, Jean-Jacques? Pourquoi les nouvelles sanctions se font-elles ainsi attendre?
Alors non, ce vote du Parlement ne va vraisemblablement pas convaincre les 27, en tout cas pas dans l'immédiat. Ce cinquième train de sanctions ne devrait comporter qu'un embargo unique sur le charbon. Et si cet accord prend du temps, ce n'est visiblement pas à cause de désaccords. Il y a bien un consensus sur un embargo sur le charbon. Mais de sources diplomatiques, on évoque plutôt des problèmes d'ordre technique à régler. Il faut définir par exemple les modalités de rupture de contrat qu'on ne peut pas annuler unilatéralement du jour au lendemain. Il faut y adosser une sécurité juridique et c'est là-dessus que travaillent âprement les diplomates en ce moment.
Jean-Jacques Herry en direct de Bruxelles. Les sanctions qui prouvent en tout cas déjà leur efficacité. Le Premier ministre russe reconnaît aujourd'hui que la situation économique du pays est la pire des 30 dernières années. Moscou dément toujours toute exaction en Ukraine, à Boutcha notamment. L'ambassadeur russe en France a d'ailleurs été convoqué par le Quai d'Orsay pour avoir comparé une photo de la ville à un plateau de tournage sur Twitter. Il y a pourtant des témoignages, des images satellites, des enregistrements audio entre Russes, révélé par le journal allemand Der Spiegel, aujourd'hui journal qui mentionne même la participation des mercenaires du groupe Wagner. Et ceux qui ont connu les méthodes russes en d'autres temps retrouvent des similitudes. Zarema Zaoudinova est tchétchène, aujourd'hui vivant en Géorgie et au téléphone de Virginie Pierronon.
Lorsqu'elle a vu le week-end dernier les premières images de l'enfer de Boutcha en Ukraine, Zarema Zaoudinova a tout de suite fait le parallèle avec ce qu'a vécu sa famille il y a près de 20 ans en Tchétchénie.
Je regarde les photographies, les vidéos, les témoignages et je vois Grozny, Samashki, Novye Aldi, des villages où les gens ont été massacrés, brûlés vifs, un génocide. Ils ont violé des jeunes filles, ils ont violé des enfants. Et pour moi, c'est une histoire sans fin, celle d'une Russie contemporaine qui s'est construite sur les ruines de la guerre en Tchétchénie.
Tout le travail artistique de la jeune femme se base sur des recueils de témoignages sur les violations des droits de l'homme commises par la Russie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et quand elle entend aujourd'hui des Russes qui ne croient pas aux exactions de leurs soldats en Ukraine et rejettent tout sur les milices de Ramzan Kadyrov, le très redouté président pro-russe de Tchétchénie, elle se l'explique comme ça.
C'est juste un mécanisme de défense psychologique, de se dire non, ces soldats ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas des gens ordinaires. Eh bien, ces gars ordinaires, ils ont fait la même chose en Tchétchénie.
Des crimes de l'armée russe que la jeune femme continue sans relâche à documenter et qui pourront servir, dit-elle, à étayer ceux qui sont en train d'être commis de la même manière en Ukraine.
La Russie qui vient d'être suspendue du Conseil des droits de l'homme, le vote de l'Assemblée générale de l'ONU déjà jugé illégal par le ministre russe des Affaires étrangères. Cela fera un an demain qu'Olivier Dubois a été enlevé au Mali. Journaliste indépendant, il travaillait notamment pour le quotidien Libération et la dernière preuve de vie remonte à moins d'un mois, une vidéo diffusée le 13 mars dernier. Son comité de soutien et sa famille continuent de se mobiliser sans relâche. Et aujourd'hui, Rémi Brancato, avec une vidéo et une lettre ouverte au futur président de la République.
La vidéo de la famille d'Olivier Dubois, publiée ce soir, reprend d'abord un extrait des images qui nous ont appris son enlèvement l'an passé.
Je m'appelle Olivier Dubois. J'ai été enlevé le 8 avril 2021 à Gao.
Suite ensuite ce message, nous sommes 80 000 à demander sa libération et des photos. Les journalistes Élise Lucet, Samuel Etienne ou encore le groupe IAM, parmi les signataires de la pétition qui interpelle les autorités. Car Canel Bernard, sa sœur cadette, regrette de n'avoir aucune information.
Nous ne comprenons pas pourquoi notre famille n'est pas un minimum mise dans la confidence. Malheureusement, nous ne savons absolument rien et ça fait un an que ça dure.
Une nouvelle vidéo a été publiée le 13 mars. C'est la seule preuve de vie récente d'Olivier Dubois. Ce soir, le journal Libération, son principal employeur, diffuse une lettre signée par une quarantaine de sociétés des journalistes de différents médias. Lettre au futur chef de l'État, indique Sonia Delesalle-Stolper, chef du service étranger à Libération.
Il faut que ce soit au cœur des préoccupations du futur ou de la future présidente de la République. Mmh. C'est la libération d'un homme, la libération d'un Français, la libération d'un journaliste. Donc ça veut dire aussi que rentre dans ce cadre-là toutes les questions autour de la liberté de la presse. C'est fondamental. Il faut tout mettre en œuvre pour le libérer au plus vite.
Le ministère des Affaires étrangères assure ce soir que tous les efforts sont déployés, mais qu'en matière d'enlèvement terroriste, la discrétion est essentielle.
Olivier Dubois est le dernier otage français dans le monde. La deuxième dose de rappel va donc s'ouvrir aux plus de 60 ans. Vous pouvez la faire 6 mois après la première, évidemment si vous n'avez pas été infecté entre-temps. À ce jour, 500 000 personnes de plus sont éligibles, un peu plus d'un million début mai, alors que le ministre de la Santé disait ce matin qu'on avait passé le pic des contaminations Covid. La grande question, Hélène Chevalier, c'est maintenant, est-ce que cette nouvelle piqûre a un intérêt ?
Oui, le ministère de la Santé est en effet bien conscient que cette annonce pourrait banaliser la vaccination, donner l'impression qu'elle n'est pas efficace. Mais pour justifier cet élargissement, il s'appuie notamment sur l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale rendu public ce matin. Il recommande d'élargir cette deuxième dose de rappel aux 60-79 ans afin de renforcer leur protection immunitaire dans un contexte de forte circulation du virus. Si le Conseil présidé par Alain Fischer reconnaît que la première dose de rappel reste très efficace contre les formes sévères, les données hospitalières françaises de ces derniers mois montrent, selon lui, une légère perte d'efficacité. Les personnes de cette tranche d'âge, vaccinées avec un rappel depuis plus de 3 mois, ont un risque d'hospitalisation et de décès 50% supérieur à celles ayant fait leur rappel plus récemment. Un avis que ne partage pas, en tout cas pour le moment, l'Agence européenne du médicament. Elle a estimé hier qu'il n'y avait aucune preuve concluante que la protection vaccinale contre les maladies graves diminuait considérablement chez les adultes âgés de 60 à 79 ans. Pour le moment, 13% des plus de 80 ans éligibles ont réalisé cette deuxième dose de rappel.
Et parmi les vaccins disponibles, le Novavax, censé convaincre les personnes réticentes à l'ARN messager, n'a pas servi autant qu'espéré par le gouvernement. Moins de 10 000 injections jusqu'ici. À vos classeurs, paperasse un peu en vue, c'est le moment de déclarer ses revenus. Avec quelques évolutions cette année, la revalorisation du barème kilométrique de 10%, notamment pour faire face à la hausse des prix des carburants. Rien de presse non plus, ceux qui déclarent sur papier ont jusqu'au 19 mai minuit et pour les autres, ça va s'étaler jusqu'au 8 juin. On a donc largement le temps de ce détour par Limoges. Rendez-vous des meilleurs nageurs français pour les championnats de France. Et une nouvelle fois, Maxime Grousset, 22 ans, a été le plus rapide. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Hélène.
En direct de Limoges, Jérôme, Maxime Grousset, vainqueur de la course aux Rennes, tout à l'heure, le 100 mètres. Il incarne bien le renouveau de la natation tricolore.
Eh oui, sur ce sprint aquatique, le chef de file français s'appelle en effet Maxime Grousset. Alors vous connaissez peut-être ce nom, il avait terminé 4e de la grande finale olympique l'été dernier à Tokyo, derrière les cadors de la discipline. Grosse performance à l'époque pour Maxime Grousset, qui est en train de se faire un nom, lui qui a quitté sa Nouvelle-Calédonie natale quand il était un adolescent pour rejoindre Amiens puis l'INSEP à Paris. Le voilà désormais numéro 1 mondial du 100 mètres, leader de l'équipe de France à bientôt 23 ans. Il se permet même de titiller celui qui porte à bout de bras la natation tricolore depuis des années, Florent Manoudou. Il lui a pris le titre de champion de France sur le 50 mètres nage libre l'hiver dernier. Mardi, Grousset est devenu champion du 50 mètres papillon devant Manoudou et les deux vont se retrouver samedi ici dans le bassin de Limoges pour la finale du 50 mètres nage libre. Alors avec une natation française en pleine reconstruction, on rappelle le bilan, hein, une seule médaille à Tokyo, bien Maxime Grousset est un pilier des Bleus. Au rythme où il va même vite devenir incontournable.
Voilà, et on a encore un peu le temps de s'entraîner. Nous sommes à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. On se retrouve demain. Nous, on continue ensemble avec les téléphones sonnent. Vous allez nous raconter si vous vous engueulez dès qu'on parle politique à 3 jours du scrutin, en famille ou devant la machine à café. On jette quand même un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Élodie Calac, un temps très agité, beaucoup de vent notamment.
Oui, ce soir et cette nuit, il peut dépasser les 150 km à l'heure au Cap Corse. 80 à 100 attendus sur la Corse demain. Du sud de la Bretagne et du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le nord-est, les Alpes. Beaucoup de vent demain au passage de la dépression Diego. 70 à 90 km à l'heure attendus et même 100 à 110 possibles sur le centre-ouest. Jusqu'à 120 sur les côtes. Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres sont placés en vigilance orange.
Et en plus, pluvieux le plus souvent.
Oui, c'est entre le nord-ouest, le bassin parisien et le Grand Est que les pluies seront les plus soutenues, parfois avec un orage. Elles seront plus irrégulières l'après-midi du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central et la Bourgogne. Entre la Haute-Normandie, les Ardennes et la Lorraine, là, un petit peu de neige possible. Les sols pourraient blanchir très temporairement. Sur le nord des Alpes, encore beaucoup de neige demain. Prudence, vigilance avalanche sur la Savoie en particulier. Du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée, là, le soleil sera très voilé et puis les températures commenceront à baisser par le nord, pas plus de 5 à 10 degrés au nord de la Seine et en Normandie, mais 17 à 23 de l'Aquitaine à la Méditerranée.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.